les chapitres 5 et 6, en fait, vont ensemble. Et ce sont des recommandations diverses, ce sont des exhortations, mais c'est vraiment à partir de ce qui a été déjà dit dans le début du chapitre. Paul, il donne un peu de l'ordre à cette église avec donc la priorité en étant la parole et puis la prière. Et puis, il organise un petit peu les ministres. Et donc les ministères. Et ce qui suit pour le reste, c'est vraiment comment est-ce que les choses fonctionnent, quelles sont quelques particularités à cette église, quelques problèmes aussi. Avec ces particularités, nous allons voir donc des principes pour l'église en général. D'ailleurs, c'est le même schéma, ce qu'on a dans les autres épîtres pastorales. Mais chacun a des détails un peu différents. Mais nous commençons à verset 1 de chapitre 5. Ne réprime pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. Les jeunes hommes comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes comme des sœurs, en toute pureté. Tout d'abord, ne réprimande pas rudement le vieillard. Alors, avec chacun, il a donné des petites précisions. Alors, dans quelques-uns de vos versions, vous lisez au lieu de vieillard, vous lisez ancien. Alors, ce n'est pas le même mot ancien qu'on a dans chapitre 3, mais c'est plutôt un homme âgé. Donc, vieillard, c'est un peu dur, mais c'est tout simplement un homme qui a un certain âge. Alors, pourquoi il ne faut pas les réprimander sévèrement? Ben, rappelez-vous qu'en chapitre 4, déjà, Paul, il a dit à Timothée, « Ne laisse pas les gens te mépriser à cause de ton âge, ton jeune âge. » Il faut dire que les hommes avec un certain âge ont du mal à recevoir des réprimandes de la part des jeunes. Ça passe toujours mal. Et donc, c'est très pratique ce qu'il dit. Donc, fais attention avec beaucoup de respect. Mais ce qui m'intéresse avec ça, c'est qu'il ne dit pas « Ne reprends pas rudement le vieillard, mais avec les autres, ça va. » Mais, en fait, tout doit être fait avec respect pour la famille. Et ce n'est pas devant tout le monde. Il ne dit pas devant tout le monde. Ce n'est pas une chose pour se moquer d'eux, les écraser et tout. Mais c'est vraiment entre les deux personnes. Hein, c'est un jeune homme, donc un frère. Donc, bon, c'est vrai que peut-être dans le monde, si on a quelque chose, dispute avec son frère, bon, ça peut être virulent entre frères et sœurs, dans la chair. Mais encore une fois, dans l'église, c'est pas rudement, mais avec de respect. Et aussi, comme c'est familial, c'est aussi avec l'amour. Mais il n'a pas dit non plus, ne les réprimande pas, non. Mais c'est plutôt des manières. Et puis, il passe à un autre sujet. Honore les veuves, les vraies veuves. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent d'abord à exercer la pitié envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents, car cela est agréable à Dieu. Celle qui, vraie veuve, est demeurée dans l'isolement, a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les requêtes et les prières. Mais celle qui vit dans les plaisirs est morte. Voilà, quoique vivante. Alors, les veuves. À l'époque, l'espérance de vie était beaucoup moins. Il y avait énormément d'hommes qui partent en voyage, qui partent pour faire des affaires, qui meurent plus facilement d'infections, de maladies, de la guerre aussi, hein. L'armée romaine avait toujours besoin des bras et ça fait qu'il y a des veuves. Aussi, il faut dire que dans l'Empire romain, les femmes se mariaient assez jeunes. Alors, on peut s'attendre à qu'une femme se marie dès 13 ans, 14 ans. Et ça, un homme qui a 22 ans, peut-être 25 au maximum. Et donc, elle vit avec cet homme. Et donc, à 13, 14 ans, bon, elle a toute sa vie devant elle. Si son mari part en guerre ou part en voyage pour faire des affaires, et s'il meurt, après, disons même, imaginons 2 ans de mariage, elle se retrouve à 16 ans, veuve, et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse? Alors, surtout si elle a des enfants. Et justement dans l'église, une église qui était plutôt des cellules d'une maison. Donc les gens se connaissaient très bien, on s'entraidait et tout. Et donc il y avait tout un système social. C'était l'église en fait qui aidait les pauvres et les gens qui en avaient besoin. Mais comme toujours, c'est pas que l'église est l'entité la plus riche au monde, même si c'est très riche en Dieu. Et donc, il fallait faire le part des choses. Et Paul, il voulait donc que les gens, ils sachent comment justement, et surtout Timothée, qu'ils sachent comment y voir clair dans tout ça. Parce qu'il se peut qu'il y ait une vieille dame, veuve, un peu désagréable, que personne ne connaît pas très bien et qui n'aime pas. Et là, parce qu'elle est très désagréable, on ne peut pas forcément l'aider, mais peut-être c'est parce qu'on a tellement besoin que la ville est amère que justement elle réagit par rapport à ça. Mais à cause de son comportement, peut-être elle est, même si elle a fait ces choses, elle est priée, peut-être elle est mise à côté alors qu'il y a une jeune qui est beaucoup plus sociable, beaucoup plus connue. Et puis elle aussi se trouve veuve. Et les gens peut-être sont plus prêtés vers la compassion envers elle. Et c'est justement à cause de ce genre de choses que Paul il dit non. Il faut que ceux qui sont les plus nécessiteux reçoivent l'aide d'abord. Et justement, il faut faire des requêtes, des recherches. Est-ce que la veuve, est-ce qu'elle a de la famille? C'est normal que la famille s'occupe d'elle. Et donc, si la famille s'occupe d'elle, donc tout doit rentrer en ordre. Mais s'il y a quelqu'un qui est vraiment destitué, qui n'a plus rien, c'est celle-là qu'il faut aider. En ce qui concerne celle qui vit dans les plaisirs, est morte quoique vivante, on peut très bien aussi imaginer la situation de la jeune veuve, surtout si son mari n'était pas très, tout à fait ça. Et puis elle se trouve veuve, soutenue par l'église ou par les autres. Elle devient oisive, elle fait tout ce qu'elle veut. Et ben justement, elle ne vit que pour les plaisirs. Et c'est surtout pas elle qu'il faut soutenir. Il dit, voilà ce que tu dois recommander, afin qu'elle soit irréprochable. Si quelqu'un n'a pas besoin des siens, n'a pas soin des siens, surtout de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Qu'une veuve, pour être inscrite sur la liste, n'ait pas moins de 60 ans, qu'elle ait été la femme d'un seul mari, qu'elle soit connue comme ayant élevé des enfants, exercé l'hospitalité, lavé les pieds des saints, secouru les malheureux et recherché de toute œuvre bonne. Mais refuse les jeunes veuves, car lorsque leur désir les détache du Christ, elles veulent se marier et se rendre coupables en ce qu'elles ont annulé ainsi leur premier engagement. avec cela, étant oisives, elles apprennent à aller de maison en maison. Elles ajoutent à l'oisivité le bavardage et l'intrigue en parlant des choses dont on ne doit pas parler. Je veux donc que les jeunes se marient et qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison afin de ne donner à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà, quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan si quelques croyants a des veuves chez elles et qu'elles les assistent et que l'Église n'en ait pas la charge afin de pouvoir assister celles qui sont de vraies veuves. Donc l'ordre est très clair. Tout d'abord, il est normal que l'Église fasse quelque chose pour ceux qui sont dans le besoin. Mais que l'Église aussi soit sage. De nos jours, nous nous retrouvons dans une situation, surtout dans un pays, où c'est plutôt le gouvernement ou des associations qui prennent charge des gens en nécessité. Mais ne pensez pas pour un second que ça nous enlève notre responsabilité. La vraie religion reste telle qu'elle. Et il est important donc que même ce côté soit aussi développé. C'est un petit peu le dommage de l'Église évangélique dans le monde, c'est que quelque part on a oublié ce côté. C'est vrai que l'Évangile est la chose qui change, qui sauve, c'est ça qui apporte un réel changement dans cette vie. Mais ça n'enlève pas ce besoin que nous avons tous, ou l'Église a, pour justement faire ce qu'elle peut pour venir en aide de ceux qui sont dans le besoin. Et ça fait partie donc de la vie de l'Église. Même si l'Église ne peut pas tout faire, donc il faut être sage. Alors, avec ceci en tête, donc il y a tout ce parti de ces jeunes veuves. Et ça dérange un petit peu de nos jours, parce qu'on parle de ces jeunes veuves, on dit qu'elles sont exclues, et ils parlent un peu dur d'elles et de leur vie. Mais parlons-en, pourquoi est-ce qu'ils fixent l'âge limite à 60 ans? Imaginons, à l'époque, où la vie était beaucoup plus dure, une femme qui se marie, donc encore 13 ans, 14 ans, qui travaille donc pendant toute sa vie, depuis 13 ans, 14 ans, avec donc les maladies, avec la vie beaucoup plus dure et rude, même avec tous les convenances de Rome et tout. On peut très bien imaginer qu'une femme qui a 60 ans, elle est épuisée, tout simplement. Si justement, nous avons fixé l'âge de la retraite à 60 ans de nos jours, imaginons ce que c'était pour elle à cette époque. Alors, si quelqu'un qui était en dessus, il y a toujours la possibilité, aux yeux de Paul, qu'elle travaille encore. Oh, je ne sais pas, peut-être qu'elle se marie encore. Donc ça, c'est aussi une possibilité. En fait, lorsque nous lisons ce passage, ce n'est pas que Paul il dit qu'il ne faut pas se remarier ou le mariage est quelque chose de mauvais. L'oisivité et la médisance, ça c'est très mauvais. Et c'est ça ce qui est reproché par Paul. C'est tout simplement des jeunes femmes qui ont, à cause, ou grâce plutôt, à leur jeune âge, ont beaucoup plus d'énergie. Avec leur force, elles veulent faire quelque chose. Et si elles n'ont rien à faire, toute cette énergie est très souvent dépensée sur des mauvaises choses. Alors, en ce qui concerne celle qui est un peu déchue, celle qui commence bien et puis se se détourne du Seigneur pour être marié, il ne faut pas imaginer non plus que Paul est en train de dire, bon écoutez, soit elle devient, elle ne se marie absolument plus parce que ça c'est mauvais, ou bien elle suit Satan. Comme certains veulent nous faire croire par ce passage. Mais c'est plutôt un cas très normal que nous pouvons très bien imaginer aujourd'hui. C'est une femme qui travaille pour l'Église, qui a donné donc un engagement, qui s'engage pour l'Église, et puis est détournée par le désir de se marier. Et vu donc que c'est quelqu'un qui se détourne par ce désir de se marier, c'est probablement quelqu'un qui n'est pas chrétien, quelqu'un qui détourne cette femme. Tout simplement, ce qu'il dit, c'est que le désir de se marier est normal. Et justement, c'est peut-être mieux ce qu'il dit qu'elle cherche activement court après des hommes, mais qu'elle se marie et avec son temps libre, qu'elle suit et serve Dieu. Mais où les choses deviennent bizarres, c'est donc l'inverse, où elle est tellement engagée, surtout si elle n'a pas le don de célibat, et que, au fond d'elle-même, elle veut être mariée, elle cherche à être mariée, c'est son plus grand désir, mais elle masque ça par un service de l'Église. Et si elle fait ça, c'est vrai que le jour où elle trouve son mari, son ministère va s'arrêter, c'est normal aussi. Et puis, elle sera déçue, ça peut aller loin. En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que comme elle était déjà mariée, elle connaît la vie conjugale, c'est quelque chose qu'elle cherche déjà, c'est déjà dans son cœur, il n'y a rien de mauvais si elle veut être mariée et qu'elle le vive, mais qu'elle ne cache pas derrière une fausse piété en disant quelque chose qui n'est pas vrai. Que les anciens qui président bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Car l'Écriture dit, « Tu n'émeuseras pas le bœuf qui fout le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. » Première chose que nous pouvons voir en ce qui concerne l'ancien, et là c'est l'ancien, donc le même mot en chapitre 3, c'est en fait quelqu'un, oui, il enseigne. Et c'est normal dans une église qu'il y a au moins un homme, un ancien qui enseigne, sinon plusieurs. Et c'est aussi normal qu'il y a donc celui qui enseigne, donc il est le premier à enseigner et qu'il soit rémunéré. Il utilise un exemple dans la loi avec des bœufs, hein, si on nourrit son bœuf même pendant qu'il travaille, pourquoi pas l'ancien? Alors il dit, ne reçois pas d'accusation contre un ancien, si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Et ça, c'est important aussi. Il y a beaucoup de rumeurs qui courent. Ah oui, un tel fait ça, ou ah oui, j'ai entendu que c'est lui, il n'a pas tout à fait une bonne doctrine, ou enfin, je ne sais pas. En fait, dès que vous entendiez des rumeurs et des bruits qui courent sur des anciens, il faut attendre justement qu'il y ait deuxième, troisième accusation surtout de nos jours, où les médias sont très prêts à exposer toute chose qui va mal dans l'Église, il est nécessaire non plus de ne pas dénoncer les gens par vengeance, parce qu'on n'est pas d'accord. Ça, ce n'est pas une accusation, ça. Ça, c'est tout simplement un conflit d'intérêts, un point de vue. Mais ce n'est pas une accusation. Ça ne veut pas dire que l'ancien est maudit ou qu'il est dans le péché. Mais ce qui pêche, reprend-les devant tous, afin que les autres aussi en aient de la crainte. Et ça, on parle de l'ancien. L'ancien, le responsable, donc qui pêche, pasteur qui a une affaire ou qui trompe sa femme, qu'il vole de l'argent et qu'il parte en Argentine, enfin, je ne sais pas. Oui, il faut qu'il soit exposé. C'est normal. Mais là encore, avant de dire quelque chose, soyez sûr de la chose. Et ne prenez pas ces choses à la légère, parce que n'oubliez pas que le monde entend aussi. Et ils entendent et ils voient, ils disent, ah bah oui, tous ces chrétiens, ils sont comme nous aussi, et bah, eux, s'ils ne peuvent pas être d'accord, que dire avec ce mot, aimez-vous les uns les autres? Je te conjure devant Dieu, devant le Christ Jésus et devant les anges élus, d'observer ces règles sans préjugés et de ne rien faire par favoritisme. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne te rends pas complice des péchés d'autrui. Toi-même, garde-toi pur. Autrement dit, si tu imposes les mains trop hâtivement et ont permis à quelqu'un d'entrer dans le ministère, mais qu'il a des gros problèmes de péché et autres, on couvre le ministère de Dieu avec du péché. On partage, comme il dit, on devient complice, parce qu'on lui a donné une position, une place dans l'Église. Il est mieux d'attendre que les gens... passe beaucoup de temps avec des années, on les voit, et puis on voit ce qu'ils font et comment ils sont avant de les donner des positions. Il dit cesse de boire uniquement de l'eau, mais fais l'usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Là, il parle du vin. Pour simplement comme un médicament, parce que ça calme la personne. Dans le contexte, il parle de comment il doit nommer des anciens, comment il doit gérer l'Église, des choses qui ne vont pas. C'est certainement, on voit Timothée, peut-être qu'il est un peu nerveux, même peut-être un peu anxieux à cause de tous ces problèmes. Et puis ça commence à brûler son estomac, il a mal. On dit, mais prends soin de toi un peu. Bois un peu de vin, soulage tes douleurs. Il n'y a rien de mauvais. D'ailleurs, il n'y a rien de mauvais avec ceux qui prennent des médicaments de toute manière. On prie toujours que Dieu nous guérisse. Et puis on prend nos médicaments. On va chez le médecin que Dieu nous a donné, qui lui a donné la connaissance aussi de guérir ou de porter des soins. Et puis les péchés de certains hommes sont manifestes, même avant qu'on les juge. D'autres, ils ne se découvrent qu'après coup. De même, les œuvres bonnes se manifestent et celles qui ne le sont pas ne peuvent rester cachés. Voilà aussi pourquoi il ne faut pas imposer les mains trop hâtivement. Oui, il y a des gens, on voit tout de suite qu'il y a des choses qui ne vont pas. Peut-être ils sont des grands buveurs ou des gens un peu violents, ça se voit immédiatement. On voit que bon, là, il y a quelque chose. Et puis, il y a d'autres péchés qui ne se voient pas. Peut-être quelqu'un qui est malhonnête. Quelqu'un qui a problème de l'orgueil. Ça ne se voit pas immédiatement, forcément. Ou bien quelqu'un qui a une double face. Ça, pour ça, il faut du temps pour qu'un double face se manifeste. Encore pour ça, donc, il faut attendre. Et ça, c'est pourquoi on peut être assuré que tôt ou tard, tout vient à la lumière. Ce qui est mauvais, aussi ce qui est bien. Et ça, c'est pourquoi que lorsque on voit quelqu'un et on pense, bon, qu'est-ce qu'il fait? Il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas dire, bon, juste parce qu'il y a quelqu'un un peu silencieux, quelqu'un qui ne fait pas de grand bruit, il ne faut pas tout de suite le soupçonner de mal ou pense qu'il est nul et qu'il ne fait rien. Parce que souvent, le bien se cache aussi. C'est tout simplement quelqu'un qui ne fait pas ses actes devant tout le monde. Mais sachez que ces choses aussi vont être mises devant tout le monde. Le Seigneur a ses manières aussi de récompenser tout le monde d'une manière ou d'une autre. Tout comme il y a d'autres gens qui font des choses qui sont bien, mais que tout le monde voit. Mais ne pensez pas que celui que tout le monde voit est peut-être plus saint, plus juste, qui a plus de foi que l'autre. Peut-être c'est l'inverse. Et donc pour ça aussi, il est bien d'attendre un peu. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et que la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des croyants pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants, des bien-aimés qui reçoivent leur bon service. Alors, nous avons vu ça dans d'autres passages, mais c'est bien aussi de se rappeler. Lorsque nous parlons de l'esclavage de l'époque, ça n'a rien à voir avec ce qui a été fait dans l'Amérique, par exemple. En fait, les historiens nous disent que souvent, dans l'Empire romain, un esclave, il peut se trouver dans une meilleure situation économique qu'un homme libre. Souvent, ils étaient mieux payés, ils mangeaient mieux, ils s'habillaient mieux, ils pouvaient même avoir des esclaves eux-mêmes. Parfois aussi, ils étaient même mieux éduqués. Pas toujours, ça ne veut pas dire que dans le monde romain, qu'il n'y avait pas d'abus. Au contraire, il y en avait beaucoup. Mais lorsque nous parlons de l'esclave, pour eux, dans leur mentalité, c'est un petit peu à l'image de ce que nous pensons dans notre contexte culturel à un salarié. C'est quelqu'un qui doit travailler pour gagner son pain, tout simplement. Quelqu'un qui est obligé de travailler et qui travaille pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est un peu un anachronisme parce que c'est notre temps plaqué sur le temps ancien, mais pour vous donner le mieux, enfin, une meilleure idée de ce que c'était. Alors, il dit tout simplement, si vous vous trouvez au travail avec un patron chrétien, ne le méprise pas. Alors, c'est déjà quelque chose de très difficile pour vous ici à Paris en 2010. Mais ça peut arriver. Alors, ce passage, donc, ça peut être utile, surtout peut-être si vous déménagez ailleurs. Mais pourquoi est-ce qu'on méprise un patron croyant? Parfois, c'est parce que, c'est pour les mêmes raisons en fait, pour que nous, nous méprisons notre patron non-croyant. C'est souvent lié à une mauvaise volonté. Parfois, c'est aussi à cause de ses fautes. Mais, tristement, dans l'Église, le jugement est beaucoup plus dur. Et on applique une théologie des attentes, des exigences sur le frère patron comme s'il était Jésus. Or, il est pécheur comme nous. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas le mépriser. Autre chose aussi, ce qui se passe. Et c'est triste aussi, j'ai vu ça aux États-Unis, dans le même contexte. C'est, ah oui, parce qu'il est chrétien, donc pour notre pause café, on va prier, ou bien on va rentrer un peu tard, 5 minutes plus tard, parce que, ben, on a prié. Et puisque nous avons prié, donc ça va. Non, vous êtes toujours 5 minutes en retard de votre pause café. S'il est chrétien ou pas, c'est la même chose. En fait, vous avez triché 5 minutes. Et ça, c'est aussi mépriser le patron. Alors, puisque ce n'est pas une chose très répandue ici en France, gardez-le quelque part dans votre cerveau. Prions pour que vos patrons deviennent des patrons chrétiens. Et maintenant, vous avez tous les éléments pour comment s'y prendre. Et voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et selon la doctrine conforme à la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Donc il dit, voilà, ça résume tout ce qu'il a dit. Voilà ce qu'il faut enseigner, voilà comment il faut agir, voilà ce qu'il faut faire dans l'Église de Dieu. Mais si, donc, vous voyez, après avoir tout fait ça à Timothée, si après avoir tout fait, tu vois qu'il y a quelqu'un toujours qui résiste la bonne doctrine, qui... je ne parle pas des choses où on n'est pas sûr, mais des choses évidentes, parce que Paul, il parle des choses assez évidentes, très concrètes. Il résiste ces choses. Sa vie n'est pas du tout conforme, donc, à la sainteté de Dieu. Faites attention. Faites attention à cet homme. C'est... Mon expérience dans mes peu... Bon, je n'ai pas fait des grands nombres d'années de ministère, mais j'ai vu chaque fois qu'effectivement, il y avait quelqu'un qui s'oppose à ce qui est écrit dans la parole, des choses très, très simples. Je ne parle pas des choses où nous pouvons avoir plusieurs opinions, mais des interprétations très évidentes. C'est toujours parce que la personne cache de l'orgueil et ne veut pas se conformer, tout simplement. Et c'est pour ça qu'il résiste. C'est pour ça que sa vie n'est pas conforme. Donc ça, c'est bien pour celui qui est dans le ministère. Mais c'est bien aussi pour tout le monde, savoir que peut-être s'il y a quelqu'un qui, je ne sais pas, 3 ans dans l'Église et qui est toujours résistant à des doctrines de base et sa vie n'est toujours pas conforme, on peut discerner, on peut même juger un arbre par son fruit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Spécifiquement, dans cette église, nous voyons qu'il y avait des gens qui tournaient un profit au dos de la piété ou de la sainteté. De la doctrine, tout simplement. Ils enseignaient des choses et ils espéraient gagner de l'argent. Et beaucoup même. Comme s'ils disaient qu'il faut avoir juste la foi et Dieu veut que vous soyez riche. Ça peut s'appliquer ici aussi. Ces contestations, des intrigues, des nouveaux ministères où il faut payer 50 euros pour entrer dans la porte. Faites attention. Même aujourd'hui, j'ai reçu un email de quelqu'un qui a une nouvelle doctrine. Et il sait que ça vient du Seigneur. Il envoie donc à tous les pasteurs. Et je peux avoir mon exemplaire à moi pour seulement 12 euros. Et puis, il a envoyé un autre email après en disant, « Non, c'est gratuit maintenant pour les pasteurs. Alors, il faut juste remplir les cases. » Alors, j'ai joué un petit peu. J'ai pas donné mon nom, mais j'ai rempli les cases. J'ai donné mon code pour avoir le livre. J'étais un peu curieux maintenant. Il voulait toujours mon carte de crédit. Il faut faire attention à ces genres de choses. Certes, c'est une grande source de gain que la piété. Si l'on se contente de ce qu'on a. Oui. Vivre pour le Seigneur, c'est une grande richesse. Avoir la foi est très enrichissant. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a beaucoup de foi qu'il sera riche et toujours en bonne santé. Regardez, si vous voulez, comme exemple, l'église de Chine, qui est remplie de gens qui ont énormément de foi et qui luttent chaque jour juste pour survivre, souvent. Ou bien, dans le Proche-Orient, beaucoup de frères et de sœurs qui vivent dans des situations très dures, qui ont beaucoup plus de foi que moi. Non, la piété, c'est une grande source de gain. Bien sûr, c'est enrichissant. Si l'on se contente de ce qu'on a. Parce que si on se contente de ce qu'on a, ça prouve que nous marchons dans la piété. Parce que nous sommes heureux et nous sommes reconnaissants. Ça montre aussi que nous sommes en communion avec notre Créateur, celui qui pourvoit à tous nos besoins. Car nous n'avons rien apporté dans le monde. Par exemple, depuis sa naissance, Sophie n'a pas dormi une nuit sans son doudou. Mais quand elle est née, elle ne l'avait pas. Et nous pouvons être sûrs que lorsqu'elle part de ce monde, même si plus tard on le met dans le casque, ça ne serait pas avec elle aux cieux. Comme aussi, nous n'en pouvons rien porter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Avez-vous mangé aujourd'hui? Si vous avez jeûné, ça c'est autre chose. Mais avez-vous eu l'occasion de manger aujourd'hui? Vous êtes bénis. Je vois que vous avez tous des vêtements. Vous êtes vraiment bénis. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans une foule de désirs insensés, pernicieux, qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. C'est bien que Paul dit ça à Timothée aussi, parce que malheureusement, il y avait pas mal de scandales dans les églises modernes, des grands qu'on connaît tous, où il y avait des grands scandales à cause de l'argent. Il dit qu'il ne faut pas toucher l'argent. Il faut faire attention à son cœur. Donc ça, c'est la chose la plus importante. N'aimez pas le monde, ni les choses dans le monde. Et puis, dis pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as prononcé cette belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Cette phrase, homme de Dieu, a été utilisée pour Élie, Élisée, Moïse. Dans le Nouveau Testament, c'est utilisé spécifiquement pour une seule personne, Timothée. Ce n'est pas une chose qui est utilisée légèrement. C'est tout simplement un homme qui se lève pour Dieu. Et il peut y avoir aussi des femmes de Dieu qui se lèvent pour Dieu. Même chose. Je ne veux pas contredire ce qu'il a déjà dit donc en chapitre 3 ou chapitre 2, mais tout simplement, si vous êtes à Dieu, si vous suivez le Seigneur, fuyez ce qui détruit, mais recherchez la justice. Pas votre justice pour vous-même, pour vous justifier. La justice qui vient en haut, la justice qui vient de lui, la foi donc qu'il vous donne, la foi qui grandit, l'amour qui déverse dans nos cœurs, la patience donc qui vient avec des longues épreuves, jusqu'à ce qu'on est tellement anxieux qu'il faut que Paul nous dise de prendre des médicaments. Je plaisante, mais la patience et la douceur aussi. Pas la violence. Bon combat. Ne gaspillez pas votre temps avec des arguments inutiles. Et saisis la vie éternelle. C'est à vous. Saisissez-le là. Et je te le recommande devant Dieu qui donne la vie à tous les êtres. Devant le Christ Jésus qui a rendu témoignage par sa belle confession devant Ponce Pilate. Garde le commandement sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir à lui honneur, puissance éternelle. Amen. Timothée, toi qui a fait cette belle confession de votre foi, de ta foi, continuez dedans. Dans la même manière que Jésus aussi, qui a confessé devant Pilate. Pilate ne voulait pas entendre, tout simplement. Et même si il y a d'autres gens qui s'égarent et qui égarent les autres, si vous êtes un chrétien, si vous êtes à Dieu, ne laissez pas l'hypocrite s'interposer entre votre relation et Dieu, mais écartez-le saisissiez la vie éternelle. Continuez à suivre Jésus jusqu'au bout. Garde le commandement d'aimer votre Dieu et d'aimer les uns les autres, tout ce qu'il a dit. Parce que le Seigneur revient. Et quel gaspillage! Et je trouve, et j'entends cette excuse trop souvent. Un tel m'a blessé dans le passé, alors j'ai arrêté de marcher ou j'arrête d'aller à l'église parce qu'il y avait un pasteur qui était, oui, peut-être corrompu. Oui, peut-être vous a été blessé. Oui, peut-être il y avait ces choses qui sont arrivées. Mais n'oubliez pas que Dieu a permis que vous soyez là. Et il était là même pendant cette horrible situation. Et il a un plan pour votre vie. Et ce n'était pas pour vous écraser, mais c'est pour vous guérir. Et même au travers de ces situations difficiles, c'est pour que vous soyez plus fort. C'est ça ce qu'il veut pour vous. Continuez donc. Parce qu'il vous aime. Et quelle tristesse, quelle tragédie et sottise complète lors du retour du Seigneur de devoir dire: ben oui, j'ai arrêté parce que j'ai laissé un hypocrite voler ma joie, que j'ai laissé un homme corrompu me détourner, continuer jusqu'au bout. Et puis il recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de les mettre en Dieu, qui donne tout avec abondance pour que nous jouissions, qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, et qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau, solide trésor pour l'avenir, afin de saisir la vraie vie. Notre société est trop axée sur l'argent. On pense que celui qui a beaucoup d'argent, il a tout. En fait, celui qui a beaucoup d'argent, il a beaucoup de responsabilités. Il sera tenu, justement, de responsable à cause de ce qu'il a fait ou pour ce qu'il a fait. Alors, si le Seigneur vous a béni avec beaucoup d'argent, ou s'il va vous bénir un jour avec beaucoup d'argent, utilise cet argent que vous ne pouvez pas garder avec vous de toute façon une fois que vous soyez à l'autre côté. Utilisez cet argent pour le royaume, pour son œuvre, comme il vous dirige de le faire. Parce qu'on ne veut pas être comme l'homme insensé en Luc 12, qui, en voyant sa belle récolte, a bâti des greniers plus larges. Et puis qu'il a dit à son âme: « Mon âme, repose-toi, réjouis-toi avec tout ce que tu as. » Et Jésus a dit, Dieu, il dit « insensé. » Ce soir même, ton âme te sera demandée. Quelle importance d'amasser beaucoup d'argent si on ne l'utilise pas et on ne l'utilise pas comme le Seigneur veut qu'on l'utilise. Ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et dispute de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but. Que la grâce soit avec vous. Tout au long de la vie chrétienne, il y aura toujours des occasions pour s'arrêter. Tristement, il y a des gens qui profitent de ces occasions. s'il y avait quelque chose qui m'a vraiment remédié d'un calvinisme trop dur, c'était des expériences dans le ministère où j'ai vu des gens qui ont choisi, pour une raison ou pour une autre, de ne plus suivre le Seigneur. Des gens qui ont eu des vies qui, avec beaucoup de, enfin, tous les bonnes œuvres et tout, des gens qu'on disait, ah oui, c'était vraiment un chrétien et tout, et puis, pour une raison ou pour une autre, ils ont choisi de tout arrêter et de rentrer dans le monde. C'est exactement la même chose dont Paul, il avertit Timothée. Garde le bon dépôt. S'il dit garde-le, et faire attention à ces fausses sciences et disputes et tout ça, c'est parce qu'il y a un réel danger qu'un jour ou un autre, il commence à les suivre. Et ça, ça perd. Comment faire? Comment s'y prendre? Que la grâce soit avec vous. Appuyez-vous sur la grâce. Plongez-vous dans la grâce. Et ne la quittez jamais. Prions.